Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
6 TGV sur 10, 1 intercité sur 3, 1 TER sur 2, grève dans les transports en France ce mercredi contre la loi travail, grève reconductible à la SNCF et dans les centrales nucléaires. On l'a appris il y a quelques minutes. Après les manifestations, le blocage des sites pétroliers, une étape de plus est donc franchie dans le bras de fer qui s'opère entre les opposants au texte et le gouvernement. Le tout à 9 petits jours de l'euro, on en parle beaucoup. Un bras de fer qui n'est toutefois pas le premier. Et loin de là, citons 1995 par exemple, la réforme des retraites d'Alain Juppé, 2006 avec le CPE, le contrat première embauche qui avait été proposé par Dominique de Villepin, deux réformes abandonnées car contestées dans la rue. Alors pas question ce soir de débattre de l'opportunité ou non de cette réforme, mais de ce qu'elle dit de la France et de son système politique. Grève, mobilisation sociale, y a-t-il une exception française? Réforme-t-on plus facilement ailleurs? C'est le débat de ce soir, bienvenue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Marnix Dresen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie du travail à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Jean-François Chantarot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la société ODIS, l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale. Et vous êtes par ailleurs l'auteur d'un rapport, L'état social de l'Europe, aux éditions La Documentation française.
Ce texte est nécessaire. Ce texte ne sera pas retiré. L'article 2, c'est-à-dire le dialogue social dans l'entreprise, sera maintenu. Nous tiendrons, et je tiendrai, pas pour moi, pour la gauche et pour le pays.
Voilà la réponse de Manuel Valls, le Premier ministre français, aux grévistes. C'était cet après-midi encore à l'Assemblée nationale. Jean-François Chantarot, on entend là un Premier ministre qui répète, qui redit « oui, nous allons maintenir cette loi travail » malgré la mobilisation qui continue, qui s'amplifie même. Est-ce que c'est l'illustration, selon vous, d'une difficulté à réformer la France et d'une certaine spécificité française ?
Ce qu'on vient d'entendre est le symptôme du problème. C'est-à-dire qu'en France, c'est le politique qui s'immisce dans tout. C'est l'État qui fait tout, l'État est omniscient, et là, l'État dit ce qu'il faut faire dans les entreprises. Vous ne verriez pas ça en Allemagne, vous ne verriez pas ça dans la plupart des pays d'Europe, dans la plupart des pays du monde, où vous avez une possibilité pour les acteurs de se saisir entre eux du problème qu'ils vivent, de la situation qui est la leur, et d'essayer de l'organiser à l'avantage de l'ensemble des parties prenantes.
Mais alors
en France, c'est toujours l'État qui vient faire sa loi.
Mais vous citiez d'autres pays. La loi passe de toute façon par le Parlement. Donc, je veux dire, la situation de Manuel Valls qui doit défendre un texte devant des parlementaires, ça existe ailleurs.
Oui, mais cette loi, elle est bâtie par le politique. Elle n'est pas bâtie par les acteurs sociaux, que ce soit cette loi comme toutes les lois qui concernent le Code du travail. On a affaire à un système politique qui préempte le pouvoir des organisations sociales, patronales et syndicales, qui se mêlent de tout, qui les convoquent au dernier moment, en disant « voilà, vous venez la semaine prochaine, on a deux jours, je veux une loi à la fin, je vous dis en introduction ce que je veux trouver à la fin ». Ça n'est pas sérieux. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une société. Si vous voulez construire du vivre ensemble, il faut le faire avec les gens. Il ne faut pas le faire malgré eux, il faut le faire avec eux, en bâtissant une mécanique qui permet à toutes les parties prenantes de faire valoir leurs informations, d'exprimer leurs analyses, de partager leurs expériences et de croiser leurs expériences, leurs analyses, leurs idées, les unes avec les autres. Si l'un des acteurs vient imposer son avis à tous, alors c'est fichu.
Donc vous y voyez une sorte de spécificité française dans le fonctionnement de ce système politique. Marnix Dresen, quel regard vous portez sur ce mouvement social? Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie du travail. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans la manière dont se déroule ce mouvement et les autres, hein, puisqu'il est finalement à l'image d'autres passages historiques que j'ai cités dans l'introduction?
Une spécificité française, c'est difficile à dire. Je dirais simplement que ce qui se passe là en ce moment, c'est le signe qu'on touche à des institutions qui sont des institutions pivots de notre société, c'est-à-dire la place qu'a pris le travail dans nos sociétés. Et on ne touche pas, on ne réforme pas, entre guillemets, ou ne contre-réforme pas le travail sans prendre de très grandes précautions.
C'est-à-dire que vous considérez que certaines précautions n'ont pas été prises sur ce pivot que représente le travail aujourd'hui ?
Je pense que depuis une trentaine d'années, la succession de réformes relatives au travail et à l'emploi en France sont extrêmement nombreuses, se font à jet continu et sont extrêmement violentes dans la mesure où elles remettent en cause un modèle social qui faisait de la France un des pays dans lequel les salariés étaient le mieux protégés. Voilà. Et donc ça s'est vu par rapport à aux réformes des retraites, ça s'est vu par rapport aux réformes de la sécurité sociale, ça s'est vu par rapport à un certain nombre de réformes que chaque gouvernement a mises en place, tentative de faire un SMIC jeune, tentative du CPE sous Villepin-Chirac, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Voilà. Et c'est à jet continu. Et si on regarde d'où on est parti depuis le début des années 70 et où on est aujourd'hui, globalement, la condition des salariés s'est grandement détériorée, sauf peut-être sur la durée du travail, mais ça a été compensé par une intensification du travail, par une annualisation du travail, par le fait qu'il y ait un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Bref, on peut pas dire que là, en France, les salariés soient dans une position extrêmement enviable et qu'ils ne veulent pas toucher à quoi que ce soit.
Moi, je voudrais pas rentrer dans l'analyse du contenu du texte. Le sujet n'était pas là sur... on pourrait y rentrer, mais dans
le
peu de temps qui nous est imparti,
c'était pas votre question. Ce que nous dit Marnix Dresen, c'est qu'on a touché quand même au fondamental qu'est le travail. Alors, est-ce que ça, c'est...
Il a dit une autre chose très importante.
Est-ce que ça, c'est spécifiquement français ?
Voilà. Ce qu'il a dit aussi très important, c'est la multiplication des textes. Et cette multiplication des textes est avérée, mais pas seulement sur le sujet du travail. Elle est avérée dans tous les domaines. La France... surproduit des textes par rapport à ce que l'on voit ailleurs. Ce n'est pas la quantité de lois, d'ailleurs, qui est différente. Vous avez en gros une centaine de lois dans les différents grands pays du monde par an. Bon. Par contre, ce que l'on a en France, c'est la quantité d'articles dans chaque loi. Là où vous avez 10 articles quelque part, vous allez en trouver 100 en France. Il y a en gros une dizaine de fois plus d'articles. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est la même chose que ce que je vous disais en préambule. Vous avez affaire à un législateur qui se mêle de tout, qui veut tout réguler, prévoir tous les cas particuliers. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train d'infantiliser les acteurs. Vous êtes en train de leur dire « Alors si tu fais ça, petit A, il va se passer ci, petit B, il va se... » Laissez les gens prendre leurs responsabilités. Nous sommes dans une société dans laquelle la responsabilité n'est pas suffisamment partagée parce qu'on a affaire à un État qui surassume, qui prend en charge tout les pans de la vie. Et ça n'est pas possible, encore une fois.
Si vous voulez faire vivre... À votre méthode, une réforme, comment est-ce qu'elle aurait dû... Elle aurait dû partir d'où ? Vous êtes en train de parler de comités populaires qui auraient fait remonter, parce qu'il y a des corps intermédiaires en France, les syndicats le sont, ils ont été consultés aussi.
Patronaux comme syndicaux reproduisent le même problème. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de représentativité. Quand vous prenez la quantité de personnes qui adhèrent aux syndicats de salariés ou qui adhèrent aux syndicats patronaux, c'est très faible. Donc, à l'intérieur de ces organisations syndicales, on a le même système culturel français dans lequel, lorsqu'on est chef, on pense à tout, on met tout en équation, on structure absolument tout. D'ailleurs, on met tellement tout en équation qu'on est les plus forts en maths dans le monde. Sauf que le problème, c'est que la vie, ça n'est pas des mathématiques. La vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on veut tout mettre en équation, on oublie systématiquement des paramètres et on entre dans le non-dit. Prenez l'exemple de l'assurance maladie. On est dans un non-dit terrible. L'assurance maladie n'est pas un système assurantiel. C'est un système de financement par les salariés du privé d'un système de santé publique. Prenez les intermittents du spectacle.
On s'éloigne peut-être un petit peu de notre sujet.
Non, vous me demandiez ce qu'il en est quant au mécanisme culturel qui est à l'œuvre dans la société française et qui génère la situation que nous sommes en train de vivre. Ce que je vous dis, c'est que ce mécanisme culturel est très profond et on le retrouve dans tous les pans de la société. Et pour le résumer rapidement, on arrive à un déséquilibre de la responsabilité entre l'État et le citoyen. En France, l'État est attendu sur tous les sujets, le citoyen ne peut pas prendre en charge ses propres responsabilités. Et pour finir de répondre à votre question sur la co-construction, oui, c'est ça dont il s'agit, non pas des comités populaires, mais dans toutes les entreprises, vous avez des comités d'entreprise, vous avez des CHSCT, vous avez des possibilités
de... structures existantes,
voilà,
mais aller dans l'autre sens.
C'est ce qu'il faut faire partout.
Marnix Dresen, est-ce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire une pluie de réformes qui se sont multipliées autour d'un sujet dont vous disiez qu'il était pivot, est-ce qu'effectivement... ça se serait passé différemment ? Est-ce qu'il aurait fallu faire autrement, comme semble le dire Jean-François Chantarot ? Est-ce que la méthode a été mauvaise ?
Écoutez, voilà, moi j'essaie de voir les choses dans une perspective historique longue. Si on regarde la construction du droit du travail en France, ça commence dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a une étape importante, c'est le premier livre du Code du travail qui sort en 1910. Ensuite, on peut regarder toutes les réformes successives, le droit des conventions collectives. Si on met à part la parenthèse de Vichy, qui est une période un peu particulière, le droit des salariés n'a pas cessé de s'accroître jusqu'au début des années 70, début des années 80. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de droits qui ont été reconnus aux salariés. Qu'est-ce qui a généré ces droits ? C'est différents facteurs. Il y a eu les luttes sociales extrêmement importantes, les grèves que on entend décrier aujourd'hui à droite à gauche. Pardonnez-moi, mais si ces grèves n'avaient pas eu lieu, on serait encore sous Charles Dickens. C'est Émile Zola.
C'est parce qu'on vit dans d'autres, dans d'autres pays.
Ça, c'est important.
Alors,
c'est important de le dire. C'est vrai dans tous les pays. Il y a eu aussi un certain nombre.
Oui, mais dans d'autres pays, pour prendre quand même, puisque il y a quand même une dimension comparatiste que j'aimerais introduire dans cette émission. On a d'autres pays en Europe. Donc, je pense par exemple à l'Italie, la Belgique, qui en ce moment vit aussi des mouvements sociaux, où des réformes sont passées. Alors, qu'est-ce qui a été fait différemment et qui a fait que dans d'autres pays, Espagne, Italie, des lois, j'allais dire, qui atteignent les droits des travailleurs, les modifient profondément, sont passés.
Eh bien, en France aussi, il y a un certain nombre de lois qui sont passées. L'âge de la retraite avait été ramené à 60 ans, je vous le rappelle, au début des années 80. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, enfin les jeunes et pas que les jeunes, qui arriveront à l'âge de la retraite, ils travailleront au minimum jusqu'à 62, 63 ans, et vraisemblablement 65 et peut-être 67. Donc, dire qu'en France, il n'y a aucune réforme ou contre-réforme, parce que dire réforme, c'est déjà connoté, c'est déjà dire que c'est positif, on ne peut pas être contre la réforme des choses. Or, il faut s'interroger quand même. Quel est le sens de ces réformes et à qui elles profitent ? On n'est pas dans une société où tout le monde est sur un pied d'égalité. On est dans une société dans laquelle, notamment dans le monde du travail, il y a des rapports de domination et il est nécessaire que la partie faible, c'est-à-dire la partie salariée, soit protégée des abus.
Mais certains expliquent qu'il n'y a pas eu assez, par exemple, de pédagogie sur le texte, qu'il a parfois été mal compris.
C'est évident que le dernier texte de loi, le projet El Khomri, a été... rendu public dans des conditions quand même assez invraisemblables. C'est à la lecture du journal Le Parisien, qui est quand même pas le journal officiel de la République, que tout un chacun a appris qu'il y avait ce projet de loi. Alors qu'en principe, il y a des lois en France qui disent que systématiquement, toute loi relative au travail et à l'emploi doit faire l'objet d'une consultation et d'une concertation, il n'est pas dit négociation, mais concertation, avec les acteurs syndicaux et patronaux. Ça n'a pas du tout été le chemin qui a été respecté. Donc c'est extrêmement violent.
Mais en plus, c'est respecté quand ce chemin-là est respecté sur d'autres lois, puisque vous avez raison, de nombreux textes sont promulgués. En fait, on constate que oui, ça a été dans le sens du travailleur pendant longtemps, et puis c'est de plus en plus difficile. Mais si on regarde bien la situation de la France, les performances de la société française sont en train de s'affaisser. On a affaire à un taux de chômage qui est élevé, on a affaire à une protection des chômeurs qui est la plus élevée d'Europe. Pourtant, on a beaucoup de chômage. On n'arrive pas à aider les personnes à retrouver un emploi. Notre droit du travail, qui protège les salariés beaucoup, n'a pas réussi à créer de l'emploi, n'a pas réussi à créer la dynamique professionnelle, industrielle, économique, d'innovation. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut faire tous ensemble dans notre société pour chercher les conditions de façon à créer des emplois, créer des produits, créer des nouvelles formes d'organisation. Et si on ne bâtit pas avec toutes les parties prenantes, la recherche de ces conditions-là. Alors évidemment, vous allez avoir un jour la nécessité d'imposer un texte parce qu'on sera dans l'urgence et vous aurez un ministre qui viendra vous dire ce qu'il faut faire.
L'exemple français du diagnostic, parce que c'est quand même quelque chose dont on parle depuis beaucoup dans les médias, ce qui se passe en France, est-ce qu'on peut pas trouver des réponses ailleurs ? Par exemple, en Allemagne, vous nous disiez tout à l'heure, Jean-François Chantarot, qu'il fallait que ça vienne du bas. Est-ce que par exemple la méthode Hartz, donc celle de Schröder, avait été la bonne, c'est-à-dire bâtir une commission, faire travailler des syndicats, des patronats, des universitaires, des fonctionnaires ensemble, pondre, comme on dit, un rapport et ensuite le mettre en...
Le résultat est là. Quand vous co-construisez, vous arrivez à coproduire une compréhension du problème et ensuite vous arrivez à co-décider, co-dessiner des solutions à ce problème. Quand vous êtes tout seul dans votre bureau, vous faites ça moins bien, c'est tout. Et donc, si vous voulez respecter les différents enjeux, il vous faut impliquer les différentes parties prenantes.
Alors, certains vous diront que le gouvernement ne l'a pas fait tout seul dans son bureau et a ensuite discuté avec les syndicats, qu'il y a aussi eu le travail parlementaire avec un
Mais
travail d'amendement.
Mais c'est ce que je vous disais, juste en une phrase. Quand vous prenez la différence entre l'Allemagne et la France, oui, telle ou telle commission a pu fonctionner de telle ou telle façon. Mais surtout, l'essentiel, c'est la culture allemande versus la culture française. Quand vous êtes un acteur politique en Allemagne, chaque rencontre avec un citoyen est une occasion pour lui de le responsabiliser. En France, quand vous êtes un acteur politique, chaque rencontre est une occasion de faire campagne électorale.
Alors, je voudrais que vous réagissiez, Marnix Dressen, sur cet exemple allemand. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des leçons à tirer de la méthode allemande qu'on vante beaucoup en France ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il y a deux niveaux de discussion. Il y a le fond des réformes. Est-ce que ces réformes sont souhaitables ? Est-ce que c'est une bonne chose qu'elles soient mises en œuvre ? Après, il y a une deuxième question qui est une question de procédure. Est-ce que la manière dont on s'y prend dans tel ou tel pays est meilleure ou moins bonne ? Mais il faut reconnaître quand même que la question de la procédure est subordonnée à la question du fond. Est-ce que ces réformes sont souhaitables ? Et j'aimerais revenir...
J'aimerais revenir à
une question que vous posiez tout à l'heure, c'est comment ça se passe à l'étranger ? Eh bien, j'ai regardé les statistiques qui sont données par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie au travail sur les années 2005-2009. Quels sont les pays les plus grévistes en Europe ? La France, c'est vrai. La Belgique, et qui l'eût cru ? La Finlande,
qui est pourtant l'Espagne. L'un des pays les plus syndiqués.
Et qui passe pour aussi un pays de paix sociale où tout se passe bien, etc. Les pays intermédiaires, Chypre, Malte, Italie, Irlande,
la Finlande, j'ai pas ces chiffres-là,
Norvège, hein. Royaume-Uni, Danemark. Et les pays faibles, Allemagne...
La Finlande, regardez, en 2008...
Attends,
la Finlande...
On va pas se lancer dans une guerre de chiffres. Terminé, monsieur.
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède. Donc vous voyez que c'est pas exact.
C'est un fait que les pays nordiques sont plus syndiqués en tout cas que la France.
Oui, mais ça... pas plus grévistes. Pas la Finlande. Moi, j'ai les chiffres sous les yeux. On peut les comparer.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a une conflictualité sociale forte. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas qu'en France que les réformes relatives au travail et à l'emploi prennent l'orientation qu'elles prennent. C'est-à-dire une orientation qui vise à moins protéger les salariés et à davantage satisfaire les exigences des entreprises, c'est-à-dire du capital.
Mais alors là encore,
c'est ça dont il faut parler.
Ce genre de réforme a existé par exemple aussi en Italie, mais par exemple Matteo Renzi, quand il les a menées, avait été élu sur ce programme-là. Est-ce que c'est pas aussi une différence française qui fait que ça marche pas ?
Bien sûr. Une des spécificités et un des étonnements du mouvement actuel en France, c'est que ça s'oppose à un gouvernement de gauche, qui prétend être de gauche, qui s'est fait élire sur un programme de gauche. Est-ce qu'il faut rappeler, mon ennemi, c'est la finance. Voilà. Et ça, je crois que c'est sans précédent depuis très longtemps. Généralement, les grands mouvements sociaux, c'était contre des gouvernements de droite. C'est dire à quel point ce gouvernement est déconsidéré aux yeux du salariat.
Jean-François Chantarot, je vous vois qui veut réagir.
Oui, il y aurait tellement de choses à dire. Le principe, c'est que si vous voulez construire une société qui marche, il faut impliquer tout le monde dans la recherche des conditions du succès. À partir du moment où vous excluez une partie des acteurs, c'est fichu. À partir du moment où la partie des acteurs qui s'est trouvée exclue, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, se met même à jouer contre son camp, à bloquer l'économie, alors là, la société va fonctionner encore moins bien et les emplois ne seront pas au rendez-vous. L'innovation n'aura pas lieu en France et ce n'est pas la société française qui réussira à l'avenir. Et quand vous parlez d'un modèle français, en fait... Quand vous êtes en face des grands acteurs internationaux, ils voient la France comme un contre-modèle, plus qu'un modèle.
Alors, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux, Jean-François Chantaro, directeur de la société ODIS, Observatoire du Dialogue et de l'Intelligence Sociale, Marnix Dressen, professeur de sociologie du travail à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Merci également à Florence Pons, à Mathias Taylor. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI. 7 milliards.